c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Et merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Bergerac 95, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre maintenant ensemble. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de cette toute nouvelle édition inédite de Chute en écoute la télé, nous allons consacrer notre coup de cœur ciné dans un instant au film Women de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova. Yann Arthus-Bertrand sera notre invité exceptionnel en début d'émission. Nous allons passer en revue nos coups de cœur télé de cette semaine avec Caroline Bourg. Vous l'avez adorée dans le rôle d'Elsa Bailly dans Plus belle la vie. Elle va revenir très prochainement. Elle nous en parle évidemment et retour sur la grosse intrigue des Fedala à venir dans quelques minutes. Maïra Schmitt et Mathilde Lebrequier viendront nous rendre visite à l'occasion du final de Léo Mattei et des deux épisodes que l'on retrouvera jeudi qui concerneront l'autisme, un sujet très important pour Jean-Luc Reichmann. Et elles vont nous en parler évidemment toutes les deux tout à l'heure. Thierry Hackendorn et Patrick Guérineau, les deux trublions du Camping Paradis, seront avec nous pour évoquer cette toute nouvelle saison, des indiscrétions également au programme. Mais en tout cas ce soir, c'est Telle Mère Telle Fille avec Sandrine Quétier. On en parle évidemment tout à l'heure avec eux. Et puis en fin d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir le producteur, mais aussi eh bien, Guillaume Delorme qui joue dans Plus belle la vie. Vous le savez, le rôle d'Adrien Walter, eh bien, il a joué dans une toute nouvelle série tournée à Tahiti, ça s'appelle PK0. Elle a été diffusée sur France O, l'occasion pour vous de pouvoir évidemment, pourquoi pas, la revoir. On va évoquer évidemment cette série et son avenir en fin d'émission avec Guillaume Delorme, le producteur et le réalisateur de la série. Et on va tout de suite démarrer cette émission, et bien comme d'habitude, avec les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Et on va tout de suite démarrer avec les audiences de lundi dernier. C'est TF1 qui arrive en tête avec le film Les Profs, 20,7% de part de marché et 4 522 000 téléspectateurs. Marié au premier regard sur M6 arrive deuxième avec 2 656 000 et 12,8% du public. Sur France 2, il y avait la série Mirage. C'est beaucoup moins que pour le lancement avec seulement 2 495 000 téléspectateurs et 10,7% de part de marché, on est loin des quasiment 4 millions du départ. Sur France 3, Le Monde de Jamie avec 1 875 000 téléspectateurs, 8,6% de part de marché. C'est un tout petit score et C8 approche le million avec Le Mariage chez les Baudins. Et puis c'est un carton plein évidemment mardi pour Le Capitaine Marlowe et l'épisode inédit qui a captivé 6 953 000 téléspectateurs pour 29,8% du public. Pékin Express est deuxième pour son lancement. C'est un bon score pour M6, 12,2% du public et 2 545 000 téléspectateurs. TF1 n'est que troisième de la soirée avec Magnum et 2 435 000 téléspectateurs pour 11% de part de marché. Et c'est une grosse déception pour Les Mignons sur France 2. Seulement 1 511 000 téléspectateurs et 6,5% du public. Et puis la semaine noire continue pour TF1 sur mercredi puisque c'est Top Chef qui arrive en tête des audiences avec 3 185 000 téléspectateurs pour 17,2% de part de marché. C'est un véritable carton pour le lancement de cette nouvelle saison. Et sur TF1, il y avait Émergence, 15,4% du public, 3 170 000 téléspectateurs. Et c'est l'effondrement pour Il a déjà tes yeux sur France 2. C'est bien dommage pour cette excellente série. Seulement 2 285 000 téléspectateurs ont suivi la fin de cette saison 1, 10,8% du public. Et puis jeudi, évidemment, eh bien, c'est Léo Mattei et son grand retour avec Jean-Luc Reichmann qui arrive en tête des audiences. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et on va démarrer tout de suite donc notre coup de cœur cinéma de cette semaine au film Women qui sort mercredi dans les salles avec notre invité, un des co-réalisateurs, Yann Arthus-Bertrand qui est avec nous. Bonjour Yann.
Salut, ça va bien ?
Oui, ça va très très bien Yann. Après nous avoir fait voyager dans les airs et nous montrer la France et le monde vu du ciel, là c'est bien sur Terre qu'on arrive avec Women que vous avez présenté en avant-première au Festival de Luchon.
Oui, parce qu'il n'était pas question de faire un film sur les femmes avec un mec tout seul. Il me fallait une femme qui me dirige absolument parce que je ne savais pas tout. Voilà. Et c'est un film d'ailleurs qui a été fait dans une équipe avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc je n'avais pas toujours la parole et c'était bien. Et j'ai laissé faire parce que je pensais que ce film avait besoin de faire par des femmes en fin de compte. J'étais un peu là sans mettre trop mon grain de sel. Voilà.
Alors, on va suivre le parcours de centaines de femmes, je dirais presque milliers, puisqu'il y a 2000 femmes à travers 50 pays différents que vous avez retracé, puisque là, on va aller vraiment dans le monde entier. Hein.
Alors, c'est un film très émouvant. Sur d'abord, c'est de penser à ta mère, à ta sœur, à ta femme. Mais surtout, ça explique bien que dans la vie d'une femme, il y a beaucoup de moments à passer, qu'il y a beaucoup plus d'épreuves à passer que dans la vie d'un homme. Et ça, on le voit. Et en même temps, c'est un film très intime. Moi, par exemple, qui m'a fait comprendre, c'est assez curieux. Je ne suis pas fier de le dire et je le dis avec tendresse, mais je me suis aperçu que je n'avais pas aimé assez ma mère. Avoir écouté toutes ces femmes qui parlaient de leurs enfants, de leur engagement, de leur peur de ce qui pouvait arriver pour leurs enfants. Ma mère avait 7 enfants, elle avait perdu un, elle en a perdu un très vite. Et elle travaillait tout le temps, elle était tout le temps à notre service. Et je n'avais pas trop de respect pour ça. En fin de compte, j'avais du respect pour mon père qui travaillait, qui avait de l'argent. Et je m'aperçois aujourd'hui, avec tout ce que j'ai entendu, alors bien, il y a très longtemps, ça me remet en mémoire, mais je pense que je n'ai pas assez respecté ma mère qui était complètement... qui travaillait toute la journée pour ses enfants, à l'école, les médecins, qui n'arrêtait jamais en fin de compte. Et j'étais en admiration de mon père. Et en fin de compte, la personne qui m'a vraiment aimé, c'est ma mère. Bon, s'il a fallu à 74 ans pour faire un film pour s'en apercevoir, je suis un peu con, mais c'est comme ça. Et c'est un film aussi, sans doute, sur le corps des femmes, qui parle beaucoup du corps, qui parle du corps qui se transforme, de la beauté du corps violenté, du corps vendu, du corps qui ne t'appartient pas, le plaisir, l'accouchement. C'est vraiment un film qui parle beaucoup du corps des femmes, avec beaucoup de respect. Et moi, je voulais, au départ, on n'a pas malheureusement pu le faire, j'aurais voulu que le film soit gratuit pour les hommes. Que je pense que c'est vraiment un film que tous les hommes devraient voir. Bien sûr, les femmes vont aimer, parce que c'est des femmes qui parlent, et il y a une sorte de communauté qui se crée autour de ce film. Mais je pense que tous les hommes devraient voir ce film, parce que on ne sort pas de là indemne. Alors, ce n'est pas un film contre les hommes, mais on apprend des choses. Voilà.
C'est un film de femmes pour les femmes. Moi, j'avais envie de dire ça. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, Yann, c'est que vous ne vous êtes interdit aucun sujet. Il n'y a aucun sujet tabou dans ce film, on parle de tout librement, et c'est ça qui m'a frappé en premier.
Bah, les femmes, par exemple, parlent de sexe d'une façon extrêmement élégante et drôle, alors que nous, quand on parle de sexe, les hommes, on est des cochons, quoi, on ne sait pas faire. Les femmes, elles sont vraiment... J'étais étonné de la liberté de parole qu'il y avait avec les femmes sur le sexe, et aussi étonné, il y a une chose que j'ai appris dans ce film, qui m'a beaucoup marqué. C'est l'espèce... Vous savez, on voit par exemple ce que dit très bien une femme dans le film, c'est qu'avoir un enfant handicapé, c'est quelque chose de difficile. Et aujourd'hui, dans les familles d'enfants handicapés, 90% c'est des femmes toutes seules. Les femmes n'abandonnent jamais leurs enfants. Il y a un courage, une espèce de sacrifice, les femmes pour leurs enfants. Il y a une femme qui dit à un moment, on ne l'a pas mis dans le film, quand j'accouche et qu'on me pose le bébé sur le ventre, il y a quelque chose de plus important que moi qui arrive. Mais moi, je n'ai pas ressenti ça. Moi, j'ai toujours été continué avec mon égoïsme, mon ambition. Et en fin de compte, ma femme, elle a compris ça. J'en parlais avec elle, elle me dit, mais c'est tellement évident, tu n'as pas compris que pour moi, mes enfants, c'est plus important que toi, c'est plus important que tout. Et ça vous fait réfléchir. Et il y a une espèce de force, tu vois, intérieure chez les femmes que je respecte énormément.
La rencontre avec Anastasia, ça s'est passé comment ?
Écoute, Anastasia travaille avec moi depuis déjà, je crois, 12-13 ans. Elle a été journaliste sur l'émission Vue du Ciel, sur France 2. J'avais beaucoup travaillé sur Human. Puis il n'était pas question de faire un film sur les femmes sans avoir une équipe, une femme avec moi. Et elle a amené beaucoup, beaucoup au film. Alors, on est très différents tous les deux. Moi, je suis quelqu'un qui travaille très instinctivement. Je ne prépare pas trop les choses. Tout va bien se passer. On monte des gros projets. Alors, elle est très structurée. Donc, ce mélange de grande organisatrice, tu vois, on prépare longtemps les sujets. Et moi qui arrive un peu en me disant toutes les femmes ont un truc à dire. Et ce mélange des deux, voilà, fait un film intéressant.
Fallait vous cadrer, en quelque sorte. Fallait une femme pour vous cadrer un peu.
Ouais, mais tout à fait. Mais tu sais, pas facile de travailler avec des femmes dans une équipe. Hein. Surtout ce film-là. Quand tu es une femme et que tu fais un film, que tu vas être vu par des millions de personnes, que tu sais la condition des femmes dans le monde, c'est une grosse responsabilité de faire un film pareil. C'est pas quelque chose que tu prends d'une façon légère. Et je pense que toutes les femmes de mon équipe, de notre équipe, ont pris ça à bras le corps. Et moi, je fais, je le dis avec humilité, je veux pas. Mais on fait des films importants, quoi. On fait pas des films légers, on n'est pas dans la comédie, on est dans des films qui sont là pour te faire réfléchir. Et tous ces films que je fais, en fin de compte, ils te font grandir. Moi, je vieillis pas, je grandis. Voilà.
C'est un film qui vous a fait certainement grandir, qui vous a appris plein de choses sur les femmes, finalement. Je suis sûr qu'elles se sont livrées et vous avez été certainement étonné par certains propos.
Je pense que. Je parlais toujours avec une journaliste, avec une Canadienne qu'on avait interrogée, et elle me disait, d'abord cette interview qui dure une heure et demie, c'est un peu comme aller chez un psy, donc rien n'est interdit, on parle de tout. Et à un moment, elle me dit, j'arrive pour faire l'interview et que je vois dans une pièce noire, sombre, parce que t'es tout seul sur une chaise, il y a une lumière dans la gueule, un peu comme la police, donc c'est assez impressionnant. Et on fait parler les gens en posant des questions compliquées, ça commence doucement, puis après quand on te dit... quel est le moment le plus difficile dans votre vie? Qu'est-ce que vous en avez appris? Ben, tu penses bien que la réponse est toujours difficile. Et elle me disait, quand tu arrives et que tu vois, il y a une bouteille d'eau et une boîte de Kleenex, tu sais que l'interview va être compliquée. Mais ce n'est pas un film triste. Je pense que c'est un film... c'est drôle parce qu'après les projections, les filles et les femmes disent on sent qu'on fait partie de ce monde de femmes, quoi. C'est une espèce... ça nous unit, ce film. Et j'aime bien ça.
Woman, ça sortira le 4 mars au cinéma. C'est un rendez-vous qu'il ne faudra pas rater, pour le coup. On n'est pas forcément dans le féminisme ambiant, mais c'est un film pour vous. Voilà, n'hésitez pas, tout le monde peut s'y retrouver. Merci beaucoup, Yann, d'avoir été avec nous. Et Woman, c'est le 4 mars au cinéma. On va se quitter avec un petit extrait, la bande-annonce. Merci beaucoup, à bientôt.
Salut, et je vous embrasse et je vous aime.
I love being a woman. I love the tenderness. The sensitivity, the uniqueness of what it really means.
En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain.
Avoir un enfant handicapé, c'est la preuve, pour moi, de l'amour infini des mères. Cet enfant ne me regarde pas souvent, ne m'embrasse pas, et je l'aime.
Parfois, je dérange, je dis que même Dieu... devrait être une femme.
Et dans un instant, Thierry Akendorn et Patrick Guérineau viendront nous parler de Camping Paradis. Caroline Bourg, alias Elsa Bailly dans Plus belle la vie, sera également avec nous. Et Mathilde Lebrequier et Mayra Schmitt seront avec nous pour Léo Matti. Alors ne bougez pas, on revient juste après ça. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, Camping Paradis revient pour un épisode inédit ce soir sur TF1. Et bien avec un grand plaisir, nous avons la chance d'avoir avec nous Thierry Akendorn, le fameux André. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Patrick Guérineau qui est avec nous aussi. Xavier qui est avec nous.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Telle mère, telle fille, c'est l'épisode que l'on va pouvoir découvrir ce soir avec Sandrine Quétier, notamment en guest dans cet épisode. Camping Paradis, un succès qui ne se dément pas. Vous allez même en tourner 7 en 2020 avec une petite surprise à la montagne. Mais je peux vous dire que vous avez vraiment l'air de vous amuser vraiment toujours autant.
Ah oui, ça tout à fait. C'est ce qui, j'espère, garde la fraîcheur à la série. C'est que, ma foi, l'ambiance est toujours plus que joyeuse et on va sur le plateau avec bonne humeur. Donc, ça, obligatoirement, ça transpire.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que la sympathie qui émane de nos personnages est liée à l'amitié que nous avons, nous, créée au fil du temps, aux 12 ans de tournage ensemble. Donc, on a créé des liens, des vrais liens d'amitié. Et je pense que ça, comme tu dis, ça se voit à l'image et que probablement, c'est aussi pour ça que la série a du succès.
L'année prochaine, 2021, ça va être un cap, puisque ça sera les 15 ans de Camping Paradis, mine de rien, en 2021. Et oui, déjà 15 ans. Et là, est-ce qu'on pouvait imaginer en 2006, quand vous avez tourné le premier, est-ce qu'on pouvait imaginer un truc pareil être là encore après 2020?
Non, on n'imaginait même pas être là 2 ans après, puisque initialement, c'était effectivement un unitaire qu'on a tourné en juin 2006, donc c'était un film. À aucun moment, on imaginait être là 10 ans après, 5 ans après, même 2 ans après. Donc déjà, en 2007, quand on nous a rappelé pour nous demander de retourner un épisode, on était comme des fous. Effectivement, 15 ans après, 15 ans, Thierry, t'as pas bougé.
Oui, 14 ans cette année, 15 ans en 2021.
Oui, si vous le dites, c'est que c'est vrai, mais c'est vrai que ça passe vite, quand même, 15 ans. Heureusement qu'on est resté jeune.
Alors, il y a un truc qui est extraordinaire quand même, c'est que cet été, on va pouvoir aller passer aussi des vacances au Camping Paradis, dans une dizaine de Camping Paradis dans toute la France. Alors, je suis sûr que les gens vont s'attendre à vous voir dans tous les campings. Ça va être compliqué à gérer, les amis.
Oui, ça va être compliqué à gérer. C'est d'autant qu'effectivement, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'est pas prévu que nous y soyons personnellement présents dans chacun des campings. Donc, effectivement, je pense qu'il faut quand même malgré tout prévenir tous ces gens qui vont aller réserver leurs vacances au Camping Paradis. Malheureusement, on n'y sera pas.
Thierry, quel conseil vous pourriez donner aux André qui vont se balader dans ces campings-là?
Bah écoutez, suivez mes conseils déjà de bricolage. Et je pense que vous ferez virer assez rapidement. Sinon, le conseil. Aimez les campeurs, aimez les campeuses et tout ira bien.
Cet épisode, est-ce que telle mère, telle fille, on peut en parler un petit peu, l'histoire de base en quelques mots, Patrick?
Déjà, ce qui est notable dans cet épisode, c'est qu'on reçoit Sandrine Quétier, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas toujours un exercice évident, c'est des gens qui arrivent de la télévision, et Sandrine, elle arrive, elle se lance dans une nouvelle carrière d'actrice, et elle le fait très 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 bien. Et c'était du plaisir de travailler avec elle, c'était vraiment chouette, et du coup, ouais, de voir Sandrine avec nous... qui connaît Laurent pour avoir travaillé avec lui. Du coup, il y a quelque chose de très agréable et c'était chouette de lui donner la réplique et de la découvrir dans ce nouveau rôle. Ouais.
Là, rien à rajouter d'autre, sinon que effectivement, mais les compliments, on n'a pas tellement besoin d'en faire puisque je crois que les téléspectateurs vont se faire leur opinion et franchement, elle est très bluffante.
Qu'est-ce qui fait pour vous le succès de la série? C'est qu'elle se renouvelle régulièrement en proposant des choses nouvelles, comme par exemple l'année dernière un retour dans le passé. On a vu carrément les parents de Tom Delorme. C'était drôle, par exemple. Donc, est-ce que vous pensez que c'est ça aussi le succès de la longévité qui fait que les gens sont attachés à vous? C'est justement le fait de se remettre sans arrêt en question.
Ouais, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a effectivement une histoire de famille. Donc, on se retrouve comme un dîner de famille. Donc, les gens nous retrouvent avec les amis et la famille qu'ils connaissent, avec nos codes. Et en même temps, à l'intérieur de ça, effectivement, à chaque fois, on essaye un petit peu au fil des ans d'avoir des petits événements. Il y a eu cet épisode qu'on avait tourné en Corse qui nous permettait de sortir et de faire une autre histoire, de raconter d'autres choses. Là, comme tu le dis, on va tourner à la montagne. Il va y avoir un film qui sera fait à la montagne. Il y a eu ce film, effectivement, sur le passé des parents de Tom Delorme qui nous a projeté dans les années 70. Donc, effectivement, à chaque fois, on essaye à chaque saison de créer un événement qui va venir effectivement remettre un petit peu de gouache ou d'intérêt pour le téléspectateur et pour nous aussi acteurs, parce que c'est super agréable aussi de bousculer nos habitudes.
Et là, c'est autour d'une chanteuse un peu oubliée des années 90 que l'épisode va tourner, hein, là.
Oui, exactement. C'est autour d'une chanteuse des années 90 qui vient passer du temps en vacances chez nous parce qu'elle vient y retrouver sa fille qui elle-même est une créatrice de mode et qui joue son début de carrière professionnelle chez nous au camping. Et donc Sandrine Quétier qui joue sa maman, ex-star des années 90, à succès, vient nous retrouver.
Quel est votre plus beau souvenir de tournage? Un souvenir, par exemple, que vous évoquez à un dîner entre potes ou même en famille en disant « Putain, cette scène-là, je m'en rappellerai mais toute ma vie parce que c'était inoubliable.
Moi, j'en ai une pour toi. Alors, si t'en as pas eu...
Toi, Patrick, t'en donne une pour Thierry.
À mon avis, toi, Thierry, c'est ce moment magique et c'était sur le tout premier épisode qu'on a tourné, donc en 2006, où tu étais sur un ponton, t'avais un talkie-walkie et à un moment donné, il y a deux canadaires qui sont passés très proches de toi. Il y a la probabilité pour que nous autres acteurs, on se retrouve dans des situations aussi improbables. C'est assez rare. Je pense que ça a marqué le début de la série. Et on s'est dit, oh, aïe, ça va être fort.
Un petit souvenir pour Patrick alors.
Patrick, l'épisode qu'on évoque le plus souvent, c'est les fichants là. On était tous les deux très à l'ouest, encore plus à l'ouest que d'habitude. On était persuadés d'avoir découvert un trafic de tableaux, enfin, etc., etc. Les personnages se montaient le bourrichon, les deux, et on s'était vraiment beaucoup amusés dans cet épisode là.
C'était les pieds nickelés. C'était les pieds nickelés, vraiment.
J'ai l'impression que c'est un peu le Muppet Show des fois, tous les deux. C'est vrai.
C'est un peu ça, les pieds nickelés, le Muppet Show, la 7ème compagnie, enfin on a des références.
Grande référence de cette série, c'est la 7ème compagnie. Et qu'on aime vraiment.
C'est bien dit, c'est bien dit aussi. En tout cas, ne ratez pas cet épisode, vous allez encore bien nous faire rire. Ce soir, avec telle mère, telle fille, c'est l'épisode de Camping Paradis. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je peux même vous dire que Christian Parizeau va vraiment donner de son corps ce soir. Restez bien jusqu'à la fin du générique.
Voilà. On n'en dit pas plus.
On n'en dit pas plus. Allez, tout de suite extrait. Merci à tous les deux d'être passés nous voir.
Merci à toi.
Eh bien, au revoir et à ce soir.
Tu m'aides pas là, hein?
Non, pas là, non.
Vous voulez de l'aide?
Oula, ça c'est très gentil de votre part, monsieur Parizeau, mais ça cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade?
Non. Je m'ennuie, là.
Je sais pas quoi vous dire, hein. Vous savez, le camping est plein, Profitez-en pour parler avec des gens, faites-vous des amis.
J'ai déjà essayé, mais ça marche pas. Déjà à l'école, j'y arrivais pas, alors à la retraite...
Bon, si vous voulez, on est en train de coller des affiches. Enfin, surtout moi, j'ai qu'à venir avec nous.
J'ai dit que je m'ennuyais de l'homme. J'ai pas dit que j'étais désespéré.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, coup de cœur télé consacré à Plus belle la vie, évidemment cette semaine, la série diffusée du lundi au vendredi. Vous le savez, à 20h20 sur France 3, et s'il y en a une qui a été au cœur des intrigues ces dernières semaines, et il y a longtemps qu'on n'en avait pas profité autant, c'est Elsa Bailly. Eh bien oui, et Caroline Bourque est notre invitée. Bonjour Caroline.
Bonjour tout le monde.
Qui nous a montré alors des facettes hein, aussi noires que lumineuses de son personnage, avec des fois des coups de colère, des fois une facette aussi très humaine. Ça fait du bien de voir une vraie intrigue sur Elsa, découvrir son passé, sa famille. Enfin, le peu qu'on a pu découvrir son frère, en tout cas.
Il n'est pas resté longtemps, le pauvre Yannick. Oui, c'était super, c'était super. Ça fait plusieurs années que moi, j'avais ce désir de voir grandir ce personnage d'Elsa qui plaît au public et qui n'a jamais été vraiment développé. Et donc, j'avais appelé Sébastien Cherby à ce propos en disant « Écoute, je pense que mon personnage mérite une vraie histoire, mérite quelque chose de plus grand. » Et donc, on a pas mal échangé et... Moi, je lui ai décrit ma façon de voir Elsa. C'est quand même une nana qui est effectivement dans l'ombre de son mari, mais qui est quand même une nana costaud, quoi. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et Elsa, elle se laisse jamais faire. C'est une femme de tête, c'est une femme de pouvoir. Il faudrait développer ce côté-là. Et donc, on a échangé là-dessus. Il me dit, écoute, laisse-moi y penser, je reviens vers toi. Mais effectivement, avec le personnage d'Alison, donc interprété par Myra Tillane, on pourrait effectivement penser que vous êtes des nanas qui peuvent prendre le pouvoir. Et 4 mois après, en avril 2019, il est revenu vers moi avec cette intrigue Elsa Mafiosa, les grandes lignes, et en me disant, écoute, je pense que c'était un désir commun des auteurs et de toi et de nous, tout s'est mêlé au bon moment en fait. Je crois que cette envie a été, comment dire, tout le monde avait envie au même moment, tout le monde était content, les auteurs m'ont fait des retours en disant, on est très heureux d'écrire pour Elsa. Les réalisateurs avec qui j'ai travaillé étaient heureux. La post-prod, enfin bon, bref, toute la famille Plus belle la vie, on était contents de cette intrigue. Et j'ai eu une intrigue formidable. J'ai eu la chance d'avoir des partenaires incroyables. Évidemment, je ne parle pas de Rachida Fassa et de Marwan Vereni, qui sont mes partenaires historiques et que j'aime énormément. Mais on a eu une nouvelle team incroyable, des comédiens talentueux. Et donc, on a pu découvrir effectivement ce personnage d'Elsa, qui est une femme très, très forte en apparence, mais qui reste néanmoins attachée à sa famille, attachée à ses valeurs. Et c'était génial. Je me suis régalée.
Pour ceux qui n'ont pas tout compris forcément à l'intrigue, hein, évidemment, Elsa a découvert que son frère, qui a été tué hein, très très peu après son retour pour le coup dans sa vie, eh bien, était mêlé à un trafic d'organes et que évidemment l'embaumeur des pompes funèbres était mêlé à cette histoire. Donc voilà, l'intrigue maintenant c'est terminé, mais on va continuer à voir parce que je crois que le clan Fedala va être vraiment un peu au cœur encore en 2020, un peu des histoires qui vont arriver.
Alors, je n'ai pas d'infos à ce sujet, réellement. Je sais que là, il va y avoir la découverte du fameux Pavel. N'insistez pas, je ne vous dirai pas qui c'est.
On va enfin savoir qui c'est.
Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai vu, je suis montée dans sa voiture.
Oui, alors toi, tu l'as vu, t'es la seule. Tu montes dans sa voiture hein, et tu ressors et tu nous dis pas qui c'est. C'est quoi ça?
Je ne dirai rien, même sous la torture. Donc voilà, donc ça, il y aura un petit retour là-dessus, sur peut-être pour... savoir enfin qui est Pavel. En ce qui me concerne, moi, donc vous avez vu à la fin de l'intrigue les enfants de mon frère, donc Nisma et Bilal, que je récupère et qui vivent avec nous au sein de la famille Fedala.
C'est mal barré hein, pour l'instant, hein. ils sont durs. Hein.
Ouais, ils sont pas évidents, en effet. Et la dernière phrase de Karim qui dit, ça va être comme ça tous les soirs parce que les enfants sont en pleine adolescence. Et puis les pauvres, enfin, ils ont pris un peu cher. Donc voilà. Donc ça laisse supposer qu'effectivement, ce clan Fedala va rentrer au Mistral puisque les enfants peut-être iront au lycée. Bref. Moi, j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais il semblerait que ce soit ça, oui.
On va découvrir en tout cas cette famille un peu, voilà, recomposée avec tout le monde, où tout le monde là est parti pour habiter ensemble. Hein.
Oui, donc ça va être à mon avis source de pas mal de petits conflits puisque la petite porte le voile. Donc évidemment, peut-être, je ne sais pas, hein, le voile reviendra sur le tapis, mais en tout cas, il y aura de la rébellion, il y aura vivre ensemble comme à l'ancien temps, c'est-à-dire les parents, les enfants, ça va être un peu, ça va être un sacré bazar, ouais.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi, Caroline?
Alors, pour l'instant, là, en diffusion au mois de mai, il y aura Tandem, donc le deuxième épisode de la saison 4 de Tandem, dans lequel j'ai le guest principal. Ensuite, donc, les plateaux de Plus belle la vie, je pense au courant juin, me semble-t-il, sans plus d'infos pour l'instant. Et je développe aussi, à chaque fois que je le dis, il faut vraiment que je m'y mette, une petite série qui s'appelle Journée mondiale. Parce que vous savez qu'il y a 500 journées mondiales à thématique par an. Bref, j'ai fait cette petite pastille pour Instagram qui m'amuse beaucoup. Donc pour l'instant, je me concentre là-dessus. C'est sur mes petits projets personnels. Après, l'avenir nous dira ce qu'il me réserve.
Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Caroline, pour cette année 2020?
Bon, rien de plus que ce que j'ai actuellement. Tout va bien. L'année 2019 a été formidable. Si 2020 est aussi formidable que 2019, waouh. Non, tout va bien, merci. Vraiment, j'ai la chance d'avoir un mari formidable, j'ai un enfant génial, mon métier me comble, des amis super, waouh. Un public génial, merci. Oui, j'en profite pour remercier le public. Des retours, mais tellement, tellement gentils. Pourtant, mon personnage, ça me fait plaisir parce que mon personnage est dur, mais à la fois, le public a réussi à voir son humanité derrière. Et les gens sont hyper sympas avec moi.
Quelle a été la scène la plus dure pour toi à tourner? Moi qui te connais un peu, évidemment, quand je t'ai vu jouer certaines scènes, notamment le coup de fusil dans le genou, c'est... Ouais, il est resté celui-là, hein, et on a pris dans les résumés pendant 3 semaines derrière. Hein.
Alors, ça c'était quand j'ai lu le truc, j'attendais ça, ce moment avec impatience, je me dis, ouais, je vais tirer des balles dans les genoux, j'étais hyper contente. La scène la plus dure à jouer, c'était avec William, donc avec Grégory Barco, qui est un partenaire incroyable, mais mon Dieu, quel bonheur j'ai eu de travailler avec ce garçon. C'était la scène de baiser. Parce que c'était quelqu'un avec qui je m'entendais vraiment, que je m'entends d'ailleurs très très bien. On avait développé cette amitié vraiment sincère, une vraie rencontre professionnelle et amicale. Et au bout d'un mois et demi d'amitié, bon ben salut, on doit se rouler des pelles. Et puis c'était vraiment écrit, fallait qu'on y aille quoi. Et j'étais hyper gênée, j'avais l'impression d'être adolescente, d'avoir 15 ans. C'était la scène la plus dure à faire. Non, sinon, après, tout ce qui était violence, en fait, je m'étais beaucoup documentée. J'avais regardé un peu Mafiosa, j'avais regardé la série Gomorra sur la mafia italienne. Et donc, les scènes de violence ont été bien préparées à l'amont. Et je me suis amusée parce que c'est tellement un contre-emploi pour moi. Donc ça m'a... voilà, ça m'a amusée. Mais la scène la plus dure, c'était bizarrement le bisou. Voilà.
Bon, voilà, ça c'est dit. Bon, en tout cas, merci à toi, Caroline, d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes. Et puis, on te souhaite plein de belles choses pour 2020 et on te retrouve bientôt dans Plus belle la vie.
Bien, merci à vous, Alain, pour cette interview. Et moi aussi, je vous souhaite plein de bonnes choses, ainsi qu'à tous vos auditeurs. À bientôt.
Excusez-moi, je vous avais commandé un petit café, vous m'avez oublié.
Pardon.
Si c'est Gabriel qui vous tracasse, vous inquiétez pas, hein. Je porterai pas plainte. Et je mentionnerai rien dans son dossier.
Pardon ?
Au vendredi, on est tous sous pression. Gabriel le premier, je peux comprendre sa réaction. Hein. Bon.
Bah écoutez, je comprends pas. Il s'est passé quoi exactement ?
Il vous a rien dit ?
Bah non, il est parti travailler ce matin, comme d'hab. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Non, il est parti travailler ?
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Allez, coup de cœur télé cette semaine consacrée à Léo Mattei. Après les 2 premiers épisodes de la semaine dernière, on va découvrir la suite cette semaine puisque c'est une nouvelle saison de 4 épisodes qui nous est proposée. Alors on va voir le final, et oui déjà. Mais, eh bien, j'ai une belle surprise pour vous aujourd'hui puisque Mathilde Lebrequier et Mayra Schmitt sont avec nous. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, Olivia d'un côté, Héloïse de l'autre. Mathilde, on s'était vu l'année dernière. Mayra, c'est une première dans l'émission. J'avais envie de mettre aussi un peu le personnage d'Héloïse à l'honneur. Une adolescente difficile au départ qui a vécu beaucoup d'aventures, qui est, j'oserais dire, en reconstruction dans cette saison.
Exactement, Héloïse c'est un personnage qui vit une vie très très difficile parce que même si aujourd'hui elle a une situation plus stable, bah il y a tous les événements qui se sont passés avant qui reviennent dans sa vie chaque jour, à chaque moment, à chaque instant elle y pense, et tous les rebondissements qui se passent dans les épisodes que vous allez revoir ou voir ce soir en tout cas, c'est des nouveaux rebondissements qui apportent en plus à son histoire encore plus de troubles, quoi.
On souffrait, hein. Franchement, je te le dis franchement, on souffrait avec toi, hein. C'était vraiment, assez impressionnant, les séances de séquestration, d'embrigadement, je peux dire, autour de la personne qui doit être née.
Ben, c'est ça, parce qu'en fait, on a les images qui nous racontent vachement bien ce qui s'est passé, mais il y a aussi, ce qui est vachement intéressant au niveau du jeu à travailler, c'est toute la psychologie du personnage qui souffre, qui à la fois est très contente de retrouver son père et sa famille, mais se rend compte de tout ce qu'elle a laissé, sa mère, ses proches, et l'état dans lequel elle retrouve son père aussi, qui l'a cherché depuis tant d'années. Et puis, le fait de vouloir recréer des liens familiaux, mais en même temps de pas du tout y arriver parce qu'elle est totalement tombée amoureuse de son ravisseur, quoi. C'est le syndrome de Stockholm par excellence et qui est difficile à vivre, quoi.
Mathilde, personnage d'Olivia, donc dans cette nouvelle saison, va faire face à des nouveaux personnages aussi, incarnés par Florence Pernelle. Il y a Lenny Kim aussi, qui est dans cette saison en guest. Alors Olivia, en quelques mots, qu'est-ce qui va lui arriver cette saison? Enfin, pour ces deux derniers épisodes du moins.
Bah, Olivia, c'est vraiment l'associée, la complice de Léo Mattei. Et Léo Mattei a tendance à vouloir sortir des clous. Et Olivia est là pour essayer de l'y remettre dans les clous. Mais ça ne fonctionne pas vraiment, parce que Léo Mattei est un électron libre. Olivia a son petit caractère aussi, elle est pas tendre non plus, hein. Elle se laisse pas faire, elle peut être vexée, il y a une amitié qui est arrivée entre eux, ils ont créé ça. Donc voilà, ils peuvent se friter un petit peu.
Est-ce qu'il y a des sujets, parce qu'on aborde beaucoup le thème de l'enfance, de la jeunesse évidemment dans Léo Mattei, est-ce qu'il y a des sujets parfois difficiles à évoquer pour toi Mathilde en tant que maman ou comédienne tout simplement?
Bah, en tant que maman, oui, c'est vrai que par le biais de ce que défend Léo Mattei, le droit des enfants, ce qui se passe dans les familles dont on ne se rend pas vraiment compte, les parents parfois sont aveugles parce que les enfants cachent beaucoup ou sont en difficulté, ça fait ouvrir les yeux et ça fait essayer de rester vigilant. Voilà, je crois que Jean-Luc, c'est sa grande préoccupation, le droit des enfants, la vigilance, essayer de ne pas les perdre de vue, de les protéger. Tous les sujets qui sont abordés sont crédibles, sont tout à fait dans la société et je crois qu'il y a une mission de prévention dans les épisodes de Léo Mattei, qui est très importante et que Jean-Luc et Nathalie défendent ardemment.
Je suis assez d'accord. Alors, il est vrai que si les retrouvailles entre le père et la fille ont été au cœur et les fils rouges de certaines des saisons, donc maintenant on est dans la reconstruction, c'est bien d'avoir pu justement faire évoluer le personnage d'Héloïse comme ça, de voilà, pas se dire, ben voilà, maintenant ça y est, ils se sont retrouvés, on arrête là, va devenir la fille un peu fantôme du personnage principal. Donc c'est bien de pouvoir s'attarder aussi sur ton personnage.
Oui, exactement, parce que bah, finalement, Léo Mattei se bat pour la protection des enfants et sa propre fille a vécu des choses horribles, pareil, il pensait ne pas la retrouver, etc. Donc c'est génial du coup d'avoir le paradoxe entre le travail et sa vie personnelle qui sont toujours sur la même longueur d'onde, quoi. Et donc même quand il rentre chez lui le soir, bah, il a sa fille qui est là, qui essaye de se reconstruire, qui cherche des solutions pour évoluer. Et c'est un peu comme si on prenait les enfants des épisodes qu'on voit et qu'on leur inventait la suite. Et bah Héloïse, c'est la suite. On n'a pas vu toute sa séquestration, etc. en détail, mais on voit la suite de comment se reconstruire de tout ce qui s'est passé, quoi.
Quelle était la scène plus difficile pour toi, Maïra?
Au niveau des émotions et tout ça, ce qui est assez pratique finalement avec Héloïse, au début je trouvais ça un peu ennuyant, mais elle est toujours très en colère, parfois très triste par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Les scènes difficiles, c'est finalement les scènes où elle devient un peu plus joyeuse, etc. Parce que du coup, j'ai tendance à profiter de ces moments parce que moi j'adore rigoler avec l'équipe et tout ça. Et donc, quand on a des scènes voilà plus légères, on va dire, je m'emporte vite avec l'ambiance qu'il y a sur le plateau qui est géniale. Alors que quand c'est des scènes où il faut pleurer, où il faut crier, bah finalement j'ai l'habitude de le faire et ça rentre dans le personnage. Donc voilà, après une scène très très difficile qu'on a eue, c'était pas forcément au niveau du jeu, c'était plus au niveau des intempéries, on était sous le vent, on tenait même pas debout, on en a parlé tout à l'heure, on tenait même pas debout quoi, c'était le vent, donc ça c'était très difficile parce que pour la concentration de l'équipe, pour le texte, pour parce que du coup on pense à autre chose, pour le placement, enfin.
Le Mistral souffle, il fait pas semblant. Hein.
Ah non, Marseille c'est compliqué. Ah le son, on a tout recommencé au son.
Ouais, vous avez été obligé de tout reprendre en post-production.
Ouais, exactement.
Et pour toi la scène la plus difficile peut-être?
Une scène qui m'a inquiétée parce qu'il a fallu aller très vite. Souvent en télé on va très vite. Je tenais un revolver et je devais fouiller un appartement. Et ça allait très vite avec une caméra à l'épaule par le chef op derrière. Et il fallait que je pointe mon pistolet, mon revolver dans chaque pièce avec des gestes un peu techniques. Et comme ça va très vite, on a peur de faire mal. Il faut rester crédible. Donc ça, j'avais une grande inquiétude là-dessus. Sinon, comme Maïra, une scène dans les calanques avec même Jean-Luc qui avait des problèmes pour tenir debout. Donc Jean-Luc qui a une grande stature et moi j'avais les cheveux tel un balai dans le vent et donc ça donne des soucis aussi aux coiffeuses qui sont là, oh mon dieu, mais je peux pas quand même lui rattacher tous les cheveux puisque ce sera par accord, etc. Alors, c'est des détails qui peuvent paraître un petit peu superficiel, mais ça fait partie d'un tout parce que à l'image on voit tout. La caméra est une loupe et elle ne nous rate pas. Voilà.
Eh bien, on va découvrir en tout cas ces deux derniers épisodes déjà. Alors, que 4 seulement cette année?
Ah oui, mais alors ils sont extrêmement forts, je trouve, ces deux doubles épisodes. Ceux de la semaine dernière, déjà, commençaient très très fort. Et là, les deux derniers, c'est assez puissant sur ce que ça raconte.
On va évoquer quoi comme sujet?
Je vous laisse la surprise, c'est pas possible. Je peux pas commencer à en parler...
Sans finir après.
Sans dévoiler l'intrigue, c'est pas possible. En plus, ça se développe sur deux épisodes. C'est-à-dire que dans le premier, on installe un début d'intrigue, mais elle continue dans le deuxième, faut surtout pas rater le deuxième, qui est extrêmement important et encore plus fort que le premier. Puisque, je ne peux toujours pas dire pourquoi, tous ces éléments du premier vont monter en puissance dans le deuxième. Et franchement, ça termine en beauté, hein.
Justement, puisque ça se termine jeudi, prête pour une saison 8?
Oh oui, prête, oui, oui. Oh que oui.
Eh bien voilà, l'appel est lancé. En tout cas, on suit donc le final de Léo Mattei, c'est jeudi à partir de 21h10 sur TF1. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Toujours en fil, toujours à toi. Toujours en fil, toujours à toi. Toujours en fil, toujours à toi. Toujours en fil, toujours à toi. Toujours en fil, toujours
à toi. Qu'est-ce qu'il fait là, ce monde?
Et petit, t'approches pas, c'est dangereux là.
Eh hey, petit là, stop.
Il avance vers le vide.
Petit, stop.
Arrête-toi. Arrête-toi, petit.
Tout droit, fil, tout droit.
Qu'est-ce qui t'a pris, mon bonhomme? T'allais où comme ça?
Tout droit, fil, tout droit.
Putain, mais t'as du sang partout. T'es blessé?
Ils sont où tes parents?
Maman a dit tout droit, fil, tout droit, Tom.
Elle est où ta maman?
T'es tout seul?
Maman a dit tout droit, fil, tout droit, Tom.
Tom.
Maman a dit tout droit, fil, tout droit.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Et rendez-vous à ne pas manquer évidemment dans nos coups de cœur télé, ça sera vendredi soir sur TF1, c'est la grande soirée des enfoirés, le Paris des enfoirés où évidemment toute la troupe se retrouve encore une fois eh bien, pour venir en aide au Resto du Cœur créé par Coluche en 1985. Je vous propose tout de suite eh bien, la bande-annonce et vous pourrez bien acheter le DVD ou le CD du spectacle dès samedi dans tous les bons espaces culturels, Leclerc par exemple.
Sans la nuit, pas le matin. Si tu me tiens la main, et ben ouais, tu me tiens la main.
Moi, je peux rester là, à côté de toi.
Le concert des enfoirés, vendredi 6 mars sur TF1.
Indiscrétion, scoop, news, tout de suite, l'infomédia.
Et dans l'infomédia de cette semaine, on retrouve par exemple eh bien, des nouvelles de la série Friends. Les fans de la série attendaient depuis des mois un signe confirmant les rumeurs d'un retour sur les écrans de la célèbre bande de copains new-yorkais. Il est venu donc des acteurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux. It's happening, ça va se faire, ont publié deux concerts sur leur compte Instagram respectif avec une photo collective de la grande époque de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer. Fan de Friends, c'est officiel, a confirmé dans le même temps dans un communiqué la plateforme de streaming HBO Max qui proposera donc un épisode spécial de la série culte à l'occasion de son lancement en mai. Après 15 ans, 9 mois et un nombre incalculable de demandes de fans à travers la planète, le casting de Friends se reformera en exclusivité pour la nouvelle plateforme propriété de Warner Media et c'est donc pour 425 millions de dollars sur 5 ans. Ce dernier a ravi les droits des 236 épisodes de Friends, afin d'en faire l'un de ses produits d'appel, la série ayant été en 2018 la plus regardée sur Netflix, selon le cabinet Nielsen. Les retrouvailles 15 ans après entre Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey et Rachel nous replongeront à une époque où les amis et les téléspectateurs se ressemblaient et se rassemblaient en même temps aussi en temps réel. Et nous pensons que cet épisode spécial fera revivre cet esprit, dit dans le communiqué un responsable de HBO Max, Kevin Reilly. Canal+ annonce le lancement de deux chaînes live sur MyCanal destinées à offrir un accès simplifié aux deux compétitions de Formule 1 et MotoGP. Comme pour les chaînes lancées pour la Première Ligue et le Top 14, Canal+ Formula 1 et Canal+ MotoGP proposeront chaque week-end deux courses, un flux ininterrompu avec l'ensemble des retransmissions, essais, qualifications, warm-up, courses, podiums, débriefs et ce, pour toutes les catégories. Pour les abonnés, il s'agit de services précieux exclusivement disponibles sur sur la plateforme MyCanal et accessible sur tablette, smartphone, navigateur internet ou encore téléconnecté. Ils rassemblent en un point central tous les contenus live de leur compétition préférée. Les deux chaînes seront disponibles pour tous les abonnés qui ont accès à Canal+ Sport, quelle que soit la formule de leur abonnement. Et enfin, c'est RMC Story qui annonce que Rachid Embarki et Dominique Rizet seront les deux présentateurs de la nouvelle formule de Faites Entrer l'Accusé, qui sera diffusée sur RMC Story à partir du mois de septembre 2020. Voilà ce qu'on pouvait retenir de l'infomédia. D'autres infomédias seront développés tout au long de la semaine dans la quotidienne de Chute en Écoute la télé. Mais tout de suite, on va marquer une courte pause. On va se retrouver dans un instant avec Jean-Marie Laronce, le producteur de la série Tahiti PK0, et Guillaume Delorme, également le comédien principal. Alors à tout de suite, on revient juste après ça.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler de la série PK0 que vous avez découvert eh bien, sur France O. C'était en janvier, fin janvier dernier. Et on a justement le producteur qui est avec nous, Jean-Marie Laronce. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Et Guillaume Delorme qui joue le rôle de Félix dans cette série que vous connaissez bien évidemment pour son rôle d'Adrien Walter dans Plus belle la vie et qui brigue la mairie de Marseille. On va en parler bien évidemment aussi. Bonjour Guillaume.
Tout à fait Alain. Bonjour Alain. Merci, merci.
Merci d'être là tous les deux. PK0, Tahiti PK0, c'est une série qu'on a découvert fin janvier, tournée en Polynésie. Et oh, que ça fait du bien de voir des belles images de la Polynésie avec en plus voilà une belle intrigue qui s'est déroulée sur 6 fois 26 minutes. Alors moi, c'est la première chose que j'ai envie de te dire, Jean-Marie. On est resté sur notre fin, c'est trop court.
Alors c'est trop court, donc la prochaine saison sera composée d'épisodes de 52 minutes cette fois-ci, donc 4 épisodes de 52 minutes, et effectivement c'était trop court, donc on attend toujours d'avoir un petit peu plus de matière pour vous, et j'espère qu'on vous satisfera sur la saison 2.
Alors évidemment la série que vous avez vue a été diffusée sur France O, vous pouvez évidemment la revoir en replay sur francetv.fr, mais comme France O disparaît au mois d'août, on imagine que cette saison 2 est vouée à être diffusée sur France 2, France 3 ou France 5. Là aussi, on passe dans la cour des grands quand même.
Oui, alors on n'a pas forcément plus d'infos que vous, mais la série est vouée à être diffusée effectivement sur une chaîne nationale, en prime time.
Alors pour ceux qui n'ont pas vu la série, fin janvier, Guillaume, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs pour leur donner envie d'aller la revoir en replay là ?
Honnêtement, tu vois, c'est un thriller policier, c'est une enquête.
Alors pour situer un peu l'histoire, dès le départ, on suit le parcours un peu de Cheyenne, cette flic qui a pris une balle et qui revient après un an et demi d'absence. Et toi qui débarques voilà, en Polynésie avec effectivement ta fille Roxane, avec qui on va dire c'est conflictuel, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au moment où tu reviens, elle disparaît et donc tu vas te retrouver à enquêter avec Cheyenne pour tenter de la retrouver. Pendant que Cheyenne, elle, va se retrouver eh bien, aux prises avec ce qu'elle va découvrir. C'est un héritage de famille et un pouvoir chamanique qui va lui permettre eh bien, de voir effectivement des morts qui lui parlent. Donc voilà, ça va peut-être aider effectivement l'enquête, mais on est dans un mélange de légendes, de mystères, de jolies vues. Donc c'est ça aussi PK0. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie en tout cas de découvrir en replay ces 6 fois 26 minutes. Et je pense que la saison 2 va nous offrir encore de belles choses. On va parler évidemment un peu des municipales, puisque là on arrive, hein, on est quasiment en plein dedans, Guillaume. Et donc tu as passé janvier, février à tourner les épisodes qui vont peut-être ou pas mener Adrien Walter eh bien, à la mairie de Marseille. C'est loin d'être gagné, mais tout peut arriver dans Plus belle la vie, on le sait. Mais toi, quand tu as découvert les scénarios, quand tu as découvert justement un peu ces arcanes du pouvoir politique et des municipales, est-ce que tu as appris des choses, Guillaume, de ce monde-là ?
Pour être honnête avec toi, oui. Ouais, y a des choses que je ne peux pas dévoiler là aujourd'hui, mais ces dernières semaines, en lecture, évidemment, ma partenaire principale, c'est Samia Nasri, donc interprétée par Fabienne Cara. Et elle est d'un support sans faille.
Même Lucie d'ailleurs.
Et même la petite Lucie, c'est vrai, qui est mignonne comme tout d'ailleurs, que j'adopte déjà dans la vie. Et donc ouais, c'est très intéressant. Et effectivement, il y a des éléments qui m'ont fait monter au bureau, parce que les bureaux sont au-dessus des studios, aller voir l'écriture et leur demander réellement si c'était vrai. Parce que je découvrais l'histoire écrite et j'ai appris des choses sur de la procédure électorale et de campagne, hein, et de résultats d'ailleurs, avec du tribunal administratif, des choses comme ça. Et donc j'ai été assez surpris. Je suis passé voir l'écriture, je leur ai demandé si c'était vrai. Et ils m'ont dit tout à fait, et ils m'ont sorti les lois correspondantes. Et donc on a pris un petit moment à l'écriture. Et oui, en effet, j'ai découvert pas mal de choses. Après, pour revenir un petit peu plus sur la fiction, évidemment, on est toujours très solidaire avec Samia. Donc Adrien et Samia, avec tout, évidemment, tous les personnages du Mistral, tout le café, l'hôtel et tout ce qu'on connaît. Donc tout le quartier du Mistral est très investi dans ces municipales. Et évidemment, on est vraiment, on va dire qu'il y a trois listes prédominantes qui vont venir s'opposer en campagne.
En même temps d'apprendre des choses, parce que c'est ça aussi la mission de Plus belle la vie, c'est de nous apprendre vraiment un peu comment les choses se passent. Il est très bien justement, de, en plus au moment où Jean-Claude Gaudin, on sait, ne se représente pas et ne brigue pas un nouveau mandat, il est bien de mettre à l'honneur ces municipales dans la série.
Oui, et puis je pense qu'on a la chance de pouvoir avoir beaucoup de rebondissements. Donc là, il y a une proposition qui est faite, on colle vraiment... Alors, c'est vrai qu'on colle à l'actualité, mais on n'est pas forcément l'actualité non plus. On est vraiment dans le domaine narratif, dans de la fiction. On est dans le climat, dans l'actualité du climat politique, mais je pense pas qu'on colle véritablement. Par exemple, on ne parle absolument pas de Gaudin et du fait qu'il se représente pas, quoi. Hein. Nous, on s'écarte complètement de ça. Ça reste vraiment de la fiction. Ce qui est intéressant, c'est de le faire en même temps et de faire se poser des questions et de se demander, de se poser les vraies questions, quoi. Toujours avec cette proximité du quartier du Mistral.
Les gens s'en posent beaucoup des questions, justement, sur les réseaux sociaux. Et il y a une espèce de chasse aux sorcières, un peu, pour découvrir qui est ce fameux Pavel. Et je sais pas, est-ce que ça t'a amusé, justement, de lire que beaucoup sur les réseaux sociaux disent « Nous, on est sûr que c'est Adrien Walter, le fameux Pavel, et l'identité de ce fameux Pavel. » Est-ce qu'on le découvrira un jour? On espère, en tout cas. Parce que moi, je me rappelle d'une parole de l'ex-producteur, Sébastien Charby. Il a dit « Méchant paye toujours dans Plus belle la vie, un jour ou l'autre. »
Oui, non, mais c'est vrai ce que tu dis, puisque j'ai découvert ça aussi sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi en me disant, mais est-ce que tu peux me dire maintenant qu'on se parle sur Messenger ou si tu es Pavel? Alors bon, peut-être qu'ils le savent avant moi, peut-être que je leur dirai un jour, mais c'est vrai que d'abord il faut que je le sache.
Tu vois? Ça t'a fait quoi justement d'osciller entre ce personnage assez propre sur lui, voire un peu de temps en temps manipulateur dans sa campagne, mais toujours de façon quand même très politique, hein. Et ce côté baroudeur chez Félix dans Tahiti PK0, passer de ce personnage à l'autre, qui sont vraiment des opposés total, hein.
Ça, pour un acteur, c'est super sympa, hein. Ça, c'est un plaisir pas possible, parce que alors ce que tu oublies de dire, c'est que ce sont à peu près les mêmes dates de tournage. Donc là, il faut être vraiment caméléon, il faut rentrer dans le plaisir des deux formats, quoi, hein. Parce que sans plaisir, on ne fait pas grand-chose. Mais
sans oublier le jet lag.
Ouais, c'est vrai que le jet lag, c'est important. Alors pour Félix, ça m'arrange un peu le jet lag, parce que, comme tu disais, il est baroudeur, donc c'est quelqu'un qui est assez marqué, etc. C'est gratifiant de pouvoir avoir ces deux parties-là, ces deux partitions, je vais dire. D'un côté, on a quelqu'un de très propre sur soi, oui, Adrien Walter, dans une campagne électorale, qui doit inspirer la confiance, le dynamisme, le renouveau, qui est propre sur lui, en effet. Qui a une diction assez parfaite, qui est bien rasée, une jolie coupe, voilà. Et de l'autre côté, et surtout, parlons aussi du confort de la production, qui est une grosse production, qui est installée. Ça fait 15 ans qu'ils développent leur projet, donc il y a toute une équipe, un roulement d'équipe, une grosse industrie, c'est très professionnel. Et de l'autre côté, on est une petite équipe très soudée. Comme on disait tout à l'heure, on est à 24 heures de vol. On est un peu en train de découvrir le script en même temps que les décors. On a le travail en amont de Jean-Marie et du scénariste qui ont inventé une histoire, mais on se confronte à une certaine forme de réalité. Donc il y a Vincent, documentaliste et monteur de documentaires, qui aime bien rentrer au fond des choses, le réalisateur, qui a une approche encore une fois particulière. Et nous, on se colle à la réalité, quoi. Donc on endosse, on s'était échangé nos références chacun pour ce projet-là. Et donc, on est dans un format tout à fait différent. C'est plus l'aventure. On n'est pas du tout en studio. On est toujours en décor naturel. On rencontre, tu vois, on a fait des scènes, par exemple, de 3h du matin à 10h du matin. On a une première partie de la journée qui se tourne, tu vois, dans les marchés, parce qu'il fait une telle chaleur là-bas que tu tournes la nuit, tu vois, quasi la nuit. Donc, on a fait des marchés en décor naturel, avec bien sûr plein de figurants organisés par la production, mais aussi des personnes qui sont des civils, quoi, des citoyens qui sont juste là, des curieux, tu vois. Et on a été très très bien reçus, on joue avec eux. Donc ouais, ça, ce parallèle, être d'un côté à Marseille, propre sur soi, avec une grosse industrie comme ça, et de l'autre côté, en petite équipe, et partir à l'aventure, ça c'est un cadeau pour un acteur.
Marie, il va y avoir des guests de choix dans cette saison 2, vous arrivez à faire venir du beau monde, mais il y en a une. Moi que je me dis, ça serait quand même le cadeau idéal pour ses fans, à faire venir, ne serait-ce que pour un clin d'œil, c'est notre Miss France 2019. Vaïma Lama Chavez, quand même notre tahitienne, peut-être la plus célèbre maintenant.
Alors on était rentrés en contact avec elle. Malheureusement, elle est prise, très occupée cette année.
Elle vient de sortir son album là en plus.
Donc effectivement, elle s'est mise à la musique, mais effectivement, c'est une option à laquelle on avait pensé. Ça ne pourra pas se faire pour des raisons de timing, on va dire, de temps. Elle n'est pas dispo à ce moment-là.
Peut-être pour une saison 3.
On reste très ouvert à toute proposition, mais c'est vrai que ce serait vraiment pour la Polynésie un moyen de mettre en avant ces célébrités. Voilà. On serait ravis de l'accueillir en tout cas.
Voilà, le message est passé et on lui fera passer bien évidemment Havaï.
C'est vrai, ça, Miss France sur France TV avec Guillaume Delorme. Ça serait idéal.
T'en rêves déjà, toi. T'en rêves déjà. Bon, en tout cas, Plus belle la vie, c'est du lundi au vendredi. Hein, ça ne rate pas le rendez-vous. C'est 20h20 sur France 3. Tahiti PK0, eh bien, vous pouvez le revoir également sur francetv.fr. La saison 2 part en tournage d'ici maintenant quelques jours. On vous souhaite un bon tournage en Polynésie. Et on va se quitter justement avec un petit extrait de Tahiti PK0 pour vous donner une petite idée, voilà, de ce que c'est, vous donner envie d'aller voir ces 6x26 minutes en replay. Merci Jean-Marie. Merci Guillaume.
Merci à toi, merci à tout le monde. Bonne journée à vous.
Merci Alain, à très bientôt.
Je cherche Roxane Kléber.
Et tu veux quoi, ma princesse?
Que t'es qui, toi?
Son père.
Depuis que je suis sortie du coma, je vois des choses étranges. Je ressens les choses avec plus d'acuité.
C'est moi. Alors je suis morte?
Félix Kléber, SRPJ de Versailles.
Celui qui a commandité le meurtre de Maëva a aussi empoisonné Carla.
Il faut arrêter, que ce soit d'empoisonnement.
Le mana. Roxane a trouvé sa thèse dessus et elle a disparu.
Vous savez, le mana est partout.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va avoir le plaisir de se retrouver pour la grande hebdo lundi prochain avec une spéciale Miss, le film de Ruben Alves qui sort au cinéma le 11 mars prochain. Nous aurons le grand bonheur de recevoir, eh bien, à cette occasion lundi dans l'émission, Ruben Alves, le réalisateur, qui sera accompagné d'Alexandre Vetter, le comédien principal, et Pascal Arbillot et Stéphie Selma qui seront également nos invités exceptionnels. À rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Nous mettrons en avant également la série Une belle histoire, une très très belle série pour France 2 par les créateurs de la série Le Village Français, et nous aurons, eh bien, la chance de recevoir Sébastien Chassagne, l'un des héros de la série. Nous parlerons également du grand retour de la série Astrid et Raphaël, et puis bien sûr plein d'autres surprises, le retour aussi de la série Les Bracelets Rouges. Vous avez compris, on va encore pas s'ennuyer lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain à 11h40 sur Bergerac 95 pour la quotidienne, et sans oublier le grand retour de l'hebdo lundi prochain à 20h. D'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.